sur Radio Bus, vous écoutez la radio la plus rapide. Radio Gymnase de Nyon, 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 Nyon.
Eh bien bonjour mesdames et messieurs et autres entités anthropomorphiques. Vous êtes aujourd'hui avec moi, David, Mathéo, James et Craig que vous entendrez plus tard.
Nous allons présenter la quatrième émission de la radio de Nyon.
Et la meilleure de toutes.
C'est vrai que t'as pas faux Mathéo.
Nous remercions nos camarades précédents pour leur chronique sur la naissance de la préhistoire ainsi que l'origine de l'homme.
Passons maintenant au thème le plus intéressant. Pas d'inquiétude, vous n'allez pas vous endormir comme dans les précédentes émissions. Nous allons donc parler de l'homme de Néandertal et la place de l'homme au 19e siècle.
Commençons donc par l'homme de Néandertal.
Donc, imaginez-vous que l'on est par exemple en 1856 et que vous découvrez des ossements dans une grotte qui paraissent humains mais qui ont des caractères atypiques.
Les ossements sont, je cite, une boîte crânienne, des fragments du bassin, des côtes massives, des morceaux d'omoplate et quelques os longs des bras et des cuisses. Mais il n'y a pas d'outils ni de débris autour.
Vous en pensez quoi, vous, à cette époque? Parce que le concept d'homme préhistorique n'existait pas encore en 1856.
C'était ce à quoi devait répondre l'instituteur Fulro, qui avait reçu ces ossements, et son hypothèse était que les os en question étaient ceux d'un homme primitif que le déluge avait déposé dans une grotte.
Ah, tu vois, encore une explication basée sur la Genèse. Mmh. C'est impressionnant à quel point les gens cherchaient à rester dans les confins de la cosmogonie chrétienne.
Oui, mais Mathéo, comment voulais-tu interpréter ça autrement? Assez difficile quand on ne veut pas penser à l'homme préhistorique.
Oui, pour compléter ce que tu dis, si on admettait qu'avant nous il existait un homme moins « évolué », entre guillemets, cela aurait contredit la pensée chrétienne de l'époque basée sur le récit de la Genèse.
Et de plus, souviens-toi qu'au 19e, on faisait beaucoup de découvertes et on y cherchait toujours une explication qui allait dans le sens du récit religieux. Précisons que même les plus grands scientifiques inventaient des théories farfelues.
Ouais, mais par exemple, genre Monsieur Mayer, un des meilleurs scientifiques allemands de l'époque, avait inventé une théorie complètement incongrue pour interpréter l'origine des ossements. En bref, il croyait que le squelette était celui d'un cavalier cosaque des troupes russes en 1814.
Puis pourquoi il pensait ça?
Bah juste parce qu'il avait les jambes arquées.
Oh, c'est complètement pitoyable.
Mais j'ai pas fini, comme à mon habitude. Son crâne avait des espèces de bosses aux arcades qu'il avait justifiées par un perpétuel froncement de sourcils.
Ouais, c'est ridicule.
Oui, mais l'aspect simiesque du crâne menait Lyell et Huxley, quand même deux grands scientifiques de l'époque, à refuser de situer le squelette découvert entre l'homme et le singe.
Oui, ok, mais tu sais, malgré tout, ils acceptent la proximité d'évolution avec les grands singes. Et c'est en 1863 que William King classe le squelette comme Homo Neanderthalis. Mais attention, il le distingue avec clarté de l'Homo sapiens.
Bah, il le distingue ainsi, tu sais pourquoi? Parce qu'il était tellement laid que ça l'empêchait d'être entièrement humain.
Mais alors, Mathéo, t'as vraiment de la chance de ne pas vivre au 19e siècle, parce que sinon tu serais pas considéré comme entièrement humain.
Là, j'aurais pas aimé, là.
Oh là là, je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Espèce de fripouille.
Bon, bref, passons maintenant à la place de l'homme. Et où situait-on l'homme au 19e, mis à part hors de la cuisine? La réponse est simple, on le dissociait complètement du reste du monde animal. Il était au sommet de l'arbre évolutif, considéré comme l'aboutissement ultime de l'évolution.
Oui, mais David, puis pour clarifier quand même tout ça, en 1864, Alfred Russel Wallace, genre un naturaliste très connu de l'époque, s'intéresse à l'origine des races humaines et, selon lui, l'évolution des deux hommes se déroule que en deux étapes.
En deux étapes? Comment ça?
Oui, en deux étapes, tu m'as bien entendu. Donc, la première consiste en une évolution physique et c'est durant cette étape qu'apparaissent les différentes races.
T'inquiète, tranquille.
Et la deuxième consiste en développement...
En développement intellectuel.
C'est vrai. Et c'est là que nous séparons du monde animal.
Puis, je t'interromps deux secondes, mais tu vois comment à cette époque les scientifiques avaient en tête une seule idée? Pour eux, l'homme était très clairement, comme j'avais dit, au sommet de la pyramide. Quoi, c'était l'œuvre de Dieu.
Ouais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu penses ça comme ça, t'es vraiment mal barré.
Ouais, puis, mais attends, là j'ai une question qui me vient en tête. Tu penses pas que c'est de cette théorie que découle le racisme, étant donné que la fin du 19e et du 20e, bah, ils étaient particulièrement racistes.
Je suis d'accord.
Franchement, c'est une bonne question, ça. Mais je sais pas.
Ouais, mais possible. On aurait peut-être la réponse lors de la prochaine émission radio, vu qu'ils traiteront le chaînon manquant.
Bon, à part ça, bref, revenons à nos moutons. En 1871, Darwin, qui n'est plus qu'à présenter.
Ouais, là, je doute pas.
Bah. Il affirme qu'il n'y a pas une séparation due à une entité divine ou supérieure, mais bien une constante et fluide évolution, due tout simplement à la nature et à la sélection naturelle.
Oui, puis d'ailleurs, on le voit dans ses cahiers de notes, bah, il a été le premier à penser et à dessiner un arbre généalogique qui n'est pas une ligne droite et où l'homme n'est pas mis à part. Il est issu d'un embranchement.
Sérieux?
Ouais, mec, quand il pense, fallait vraiment penser autrement que les gens pour rédiger une chose pareille.
Bah, c'est pas pour rien que Darwin était un immense scientifique.
Pour en conclure, avec notre feuilleton, je dirais que là, surtout, coup, c'était un combat entre la science et l'univers mental, un peu la culture de l'époque, parce que c'était compliqué d'accepter ce que disait Darwin pour la population.
Du coup, on en conclut là pour notre partie. L'enquête sur la préhistoire se poursuivra lors de la prochaine émission menée par nos camarades qui traitera du chaînon manquant et de l'astrolopithèque.
Sur ce, en avant la musique!
C'est Craig.
Bonjour. Salut Craig.
Bonjour. Alors, en parlant de la préhistoire, vous vous souvenez de 2020? Relou comme année.
Oh, c'est clair, on pouvait rien faire. Perso, j'ai dû me réfugier dans mon écran, j'ai dû regarder au moins 13 000 films.
La même.
Mais en parlant de films, hier soir j'étais chez moi et j'ai regardé un film dont j'ai jamais entendu parler. C'est le Last Duel du réalisateur.
Ah, je l'ai vu celui-là, mais j'ai pas trop aimé perso, c'était pas ouf.
Ouais, mais quand même, moi je l'ai trouvé grave bien. J'ai bien aimé les scènes de bataille et comment le film est présenté.
C'est-à-dire?
Bah, que c'était une même histoire qui était coupée en trois parties, qui représentaient chacune une vision différente des trois personnages principaux.
Moi, perso, je l'ai même pas vu. Hein.
Mais sérieux? Mec, tu viens de dire que t'as regardé 13 000 films, comment tu l'as pas vu?
Ouais, mais en fait, j'ai menti, c'était juste le Loup de Wall Street en boucle. Ça parle de quoi, en fait?
Non, mais Mathéo, regarde-le quand tu as le temps. Ça parle d'un duel entre chevaliers au Moyen-Âge en France. Tu veux quoi de plus? Il y a Matt Damon et Adam Driver. Tu connais?
Ah, ouais, c'est le gars de Star Wars, ça. Il est sympa,
ouais,
non?
C'est lui.
Non, vraiment pas. Hein. C'est un vrai schlagomax. Il a violé la femme de Matt Damon.
Attends. En vraie vie?
Maintenant, tête de mule dans le film.
Ah, ok. On peut me faire un résumé, histoire que je sois pas trop perdu.
Mathéo, bon. Au début, il y a un flash forward qui montre Jean de Carrouge et Jacques Legris qui se préparent pour un duel. Bah, d'où le nom du film.
Ok, et c'est qui eux?
C'est les personnes qui incarnent Matt Damon et Adam Driver.
Et pourquoi il y a un duel?
Je t'ai dit, il a violé la femme de l'autre.
Oh, mais en vrai, c'est fou comment ils réglaient les problèmes à l'époque.
Ouais, mais mec, c'était comme ça, tu veux quoi?
Mais à part ça, vu comment le film représente la vie au Moyen-Âge, j'aimerais pas trop y habiter. Hein.
Oui, mais Craig, tu sais que c'est purement un choix esthétique.
Ouais, ok, mais à mon avis, je pense que le film aurait dû se concentrer sur le réalisme plutôt que sur l'esthétique.
Mais pourquoi tu dis que c'est pas réaliste?
Bah, en fait, j'ai lu un bail qui disait que ce film montre le Moyen-Âge comme une époque vraiment sombre, violent et pauvre, alors qu'en réalité, c'est pas du tout vrai. Je me rappelle que le film utilisait presque tout le temps un ciel gris ou de la neige, et c'était grave triste.
C'est vrai que t'as pas faux.
Et ouais, et on va aussi pas me faire croire qu'un gars peut se faire poignarder et qu'il peut quand même se battre.
Ouais, mais Craig, ils ont quand même bien réussi à représenter d'autres choses. Par exemple, les femmes à l'époque qui n'étaient qu'une propriété de leur mari.
Par ça, on peut en parler, c'est vraiment impressionnant à quel point le statut social était tellement différent à l'époque. J'imagine pas être femme du Moyen-Âge. Hein.
Ouais, normalement, si une femme se faisait violer à l'époque, elle devait juste le cacher et ça, par ça, causerait que des problèmes, en fait.
Et bah quoi comme problème?
Bah déjà, c'était vu comme un signe d'irrespect envers le mari. C'était comme si on touchait à sa propriété, en gros.
Ouais, mais par contre, le film, sa femme était très courageuse. Elle a mis sa propre vie en danger pour rendre justice.
Mais pourquoi ils ont réglé ça avec un duel? Il n'y avait pas d'autres moyens?
Bah en fait parce que Jean n'acceptait pas que sa propriété se fasse violer. Et donc le cas allait être jugé par un ami à Jacques, donc il allait tricher. Donc sa seule option était de se battre en duel.
Oui, oui, mais Craig, il disait que celui qui gagnait le duel était du côté de Dieu et l'autre mentait.
Attends, quoi? Vraiment? L'église avait autant de pouvoir à l'époque? Moi ça me semble un peu extrême.
T'imagines, c'était toujours le cas de nos jours? C'est bien que les choses ont changé. Hein.
C'est vrai ça, mais les standards de politesse ont changé. Avant, il fallait toujours appeler quelqu'un avec son titre. Maintenant, on s'en fout.
Oui, ok, ok, ça a changé, mais on va pas dire qu'on s'en fout. Tu vas pas tutoyer ton prof ou ton patron.
Mais non, on va pas s'embrasser sur la bouche pour signifier notre alliance comme les aristocrates faisaient.
Moi, je pourrais bien t'embrasser, mais comment tu sais tout ça, mec?
Calme-toi, mec. Plus tard. Mais sinon, pour ta question, j'ai lu un article sur l'actuel Moyen-Âge. C'est très bien, faudrait le lire.
Oh,
c'est mon petit violon dans
un ça me semble cool. Tu peux me donner le lien, s'il te plaît?
Ouais, ok, je te le donne. Mais pendant la pause qui arrive dans 3, 2 et 1.
Nice.
Bien cette chanson.
C'est vrai que t'as pas faux.
Ça part direct sur ma playlist.
Bon, les gars, concentrez-vous, on est en direct là.
Ok, pardon. Bon, alors revenons à nos moutons.
Oui, maintenant nous allons parler de l'école du canton de Vaud.
Je m'en fiche de l'école, moi.
Bah tu fais quoi ici alors?
Attendez, calmez-vous s'il vous plaît, on ajoute une petite subtilité quand même.
Bah ça m'étonnerait que t'arrives à rendre l'école intéressante. Hein.
Eh bien, figure-toi que la subtilité, c'est qu'on va parler de l'école au 19e siècle.
Et de notre canton.
Oh,
En vrai, ça me parle, ça. On rentre dans le sujet, alors.
Alors, déjà, je tiens à préciser qu'on va que parler des années 70.
1970, du coup.
Le 19e siècle, c'était les années 1800, ça l'inculte. Oh.
Bref, on va commencer par les punitions pour les élèves qui ratent des cours.
Il y avait déjà des punitions à l'époque ?
Tu sais qu'il y a des coquins dans toutes les époques. Hein.
Puis on a même parmi nous des petits coquins.
Et donc, c'était quoi leur sentence ?
Des châtiments corporels, je penserais bien.
Ouais, dis entre nous, je ne vais tout de même pas infliger de telles punitions à des enfants, quoi. En tout cas, pas depuis 1865, parce que dès cette année, une nouvelle loi a interdit les punitions corporelles, et ce, suite à de fortes oppositions.
Ah, ok, ok. Et du coup, que subissait-il ?
Alors, heureusement que je suis allé voir dans les archives de nos écoles pour vous, et j'ai trouvé quelques documents intéressants, regardez ici. Je vous les passe.
Ok, merci. Alors, que disent tes sources ?
Alors, les punitions étaient plutôt sévère, et l'école convoquait même les parents pour des absences.
Mais en vrai, c'est toujours le cas, ça.
Ouais, ok, mais regarde juste là. Ça dit qu'un gars qui était absent pendant 4 périodes s'est pris la même punition qu'un autre qui a 45 absences.
Ouais, en effet, ça change d'aujourd'hui. De nos jours, on ne pourrait jamais avoir 45 absences sans se faire punir avant, quoi.
Par Dani.
Oh, mec, ils avaient tellement de chance à l'époque. Moi, j'ai eu 2 absences et on m'a fait balayer la cour.
Pas sûr que t'aies eu de la chance, parce que les élèves avaient autant d'absences à l'époque, juste car ils devaient aller travailler, bon, juste entre guillemets, ils devaient travailler en même... étant jeunes. Certains avaient des parents pauvres et ou alcooliques, donc ils avaient l'obligation de travailler pour vivre.
Ouais, t'as raison, et pas que. L'entrée dans le monde professionnel se faisait beaucoup plus tôt que de nos jours. C'est pas comme nous, alors que si on sèche, on fait pas grand-chose de productif.
Mais si je me souviens bien, c'est pour cette même raison qu'on a des vacances en octobre, car la majorité des élèves, à l'époque, devaient aider leurs parents pour la récolte.
Tu vois ça où ?
Oh, nulle part, je suis juste cultivé. C'est pour ça qu'on dit les vacances de patates.
En parlant de patates, j'ai...
Arrête, Craig. Impatiente-toi de nous faire un jeu de mots claqué au sol, s'il te plaît.
Ok, pardon, pardon.
Bon, à part ça, c'est cool tout ça, mais vous m'avez toujours pas dit ce qui étaient les punitions à l'époque.
Alors, j'y viens. Avant 1865, leur punition pourrait être qualifiée de torture, littéralement. Un exemple explicite serait la cage à ours.
On les foutait dans une cage avec un ours ?
Bon, quand même pas, on les tuait pas. Mais on les mettait dans une cage, là où ils ne pouvaient ni se mettre debout et ni s'asseoir.
Ah ouais, bah ça reste quand même assez hardcore, quand
oui.
même.
Puis j'ai pas fini, il y avait aussi des coups de verge, qui n'étaient que des coups de fouet, Craig, je te voyais venir.
Oh, merde.
Mais après 1865, c'était souvent les parents qui étaient convoqués et réprimandés. Sinon, ça ne précise pas. Pas quelles étaient les punitions, mis à part que certains se faisaient renvoyer de l'école.
Ok, d'accord. Mais maintenant, regarde juste ici. Il y a une source qui parle du rôle de la religion dans un contexte scolaire. Ça avait beaucoup plus d'importance que de nos jours.
Comment ça ?
En gros, il y avait des fonctionnaires qui vérifiaient que tout se passait bien dans l'école.
Et c'est quoi le rapport avec la religion ?
Attends, justement, j'y viens. Ces fonctionnaires qui avaient un des rôles les plus importants dans le système devaient forcément être membres de l'Église nationale.
Ça me dérange, ça. L'école devrait être un endroit neutre où on peut apprendre sans se faire imposer une idéologie religieuse, quand même.
Oui, ok, peut-être de nos jours. Mais au 19e, la religion et l'école étaient intimement liées. C'est même le Conseil d'État qui avait imposé cela. Regarde là. Ça dit aussi que le Conseil voulait que les membres des commissions scolaires appartiennent à l'Église.
Eh bah, c'est pas étonnant. L'Église avait une place très importante chez tout le monde. Du coup, ça influençait forcément la vie des membres du Conseil d'État.
Ouais, c'est vrai ça. Regarde même nos grands-parents. Ils sont beaucoup plus religieux que nous. Alors imagine en 1870 comment les gens étaient.
Bon, bah il nous reste peu de temps et j'aimerais bien qu'on parle de l'obligation scolaire fédérale.
Attends. Qu'acoustiquais-je ? L'école n'était pas obligée auparavant ?
Eh non, pas avant 1874 où il y a une révision de la Constitution fédérale.
Parbleu, je suis né 150 ans trop tard.
Alors, la vraie école suisse primaire a été l'objet de l'unification de 3 points. Je cite, l'obligation pour tout enfant de recevoir une instruction suffisante, la neutralité confessionnelle et la compétence exclusive de l'État en matière d'enseignement.
La neutralité confessionnelle ?
Bah, il laissait les élèves libres de leur choix religieux, quoi.
Et alors, les moines d'avant ?
Bah, mec, t'as rien écouté. Alors déjà, c'était des fonctionnaires, et ensuite, la source disait que c'était en 1845, donc 30 ans auparavant.
Exact. Et c'est de ces 3 points que je viens de citer que découle l'obligation d'aller à l'école.
Oula, c'est déjà l'heure.
Mais, hein ? Fuck. C'est comme quoi le temps passe vite quand on s'amuse.
En effet, ce segment fut très appréciable.
Bon.
Bah voilà.
C'est à qui de choisir la prochaine musique ?
Ah, c'est moi, mec. Tu verras, c'est vraiment une chanson très peu connue.
Mon désir pour ceci ne connaît pas de frontières. Ah.
Thank you.
Eh ben, elle était pas mal la musique.
Moi, je l'ai déjà entendue sur TikTok.
Oh, TikTok, j'entends toujours parler de ça. Ça commence à me coincer sur l'haricot.
C'est marrant que t'en parles parce qu'en Ukraine, c'est la fin des haricots.
Ouais, mais je suis d'accord. Vu la situation, c'est vraiment le dawa. Ils ont besoin de toute l'aide qu'on peut leur donner.
Bah, nous, tout ce qu'on peut faire, c'est de leur envoyer de l'argent, des vivres ou encore des soins.
Ça, c'est vrai, mais moi, j'ai déjà fait ma part. Je leur ai envoyé de l'argent. Je suis avec les Ukrainiens.
T'en as envoyé combien d'ailleurs ?
À peu près 500
francs. 500 francs ?
Mais pas des francs, des yens.
Ouf, sacre bleu, rat. Ça fait à peine 4 balles, ça.
T'as peut-être bien fait de pas trop envoyer, hein, gros rat. T'as envoyé sur quoi ?
C'était sur TikTok.
Ouais, voilà. Faut faire gaffe sur des applis comme ça. J'ai lu un article sur France 24 qui disait qu'il y avait des gens qui faisaient des faux lives.
Juste avant d'aller plus loin, Craig, tu pourrais expliquer ce que sont des faux lives ?
Ouais, ok, ouais. Alors déjà, c'est des diffusions en direct dans lesquelles des événements de la guerre sont filmés. Sauf que les diffusions reprennent d'anciennes vidéos postées et ceux qui postent les faux lives demandent de l'argent sous prétexte d'aider leur pays.
Puis, aucun argent sera versé à l'Ukraine et c'est l'auteur qui ramasse tout l'argent.
Ils n'ont vraiment rien d'autre à faire. D'ailleurs, d'où viennent les vidéos originales ?
Bah, elles peuvent venir un peu de partout. Notamment, une d'entre elles monte un parachutiste.
Ah,
russe.
Le parachutiste ! J'ai vu la vidéo. Il se filme en atterrissant en Ukraine, non ?
Oui, bah exactement. Justement pas. Cette vidéo date de août 2015. Elle est complètement obsolète. En réalité, d'après PolitiFact, c'est qu'un entraînement.
Vraiment ? Ouais, mais cette vidéo ne demande pas de dons, elle sert qu'à faire des vues. Moi, par exemple, je connais un faux live qui demande des dons.
Bah, vas-y, explique.
Vas-y, balance.
Alors, c'est une vidéo où il fait nuit, et dans le fond, on entend des bruits de sirènes, et ce live demandait des dons. Jusque-là, tout va bien, entre guillemets. Mais c'est plus tard qu'on remarque que ce live a été diffusé plusieurs fois à des heures différentes. Non. Par exemple, une fois à minuit et une autre fois vers 15h.
Il y a forcément dû avoir
des dons. Attends. Tu parles du live où on voit à peine un bâtiment dans le fond.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Misère de misère. On m'a bien berné. T'es en train de me dire que j'ai envoyé un don à un escroc.
Ah bah.
Et quel sac à gerbe.
Bah ça tombe bien que t'es un rat en tout cas, hein. T'as pas beaucoup perdu.
Ça va.
Mais attends James, c'est la première fois que t'as envoyé un don sur TikTok ?
Non. J'ai déjà envoyé sur un live Billie Eilish, voilà. Tu vas pas me dire que c'était aussi un faux live.
Bah on va vite le savoir, hein. C'était quoi le nom du compte ?
Je m'en rappelle pas trop.
Ouais, oh, bah ça, alors c'est probable que tu te sois fait arnaquer sur ça.
Non.
Parce que le même article de France 24 parle aussi d'un faux live. Si tu comptes renvoyer un don sur TikTok, vérifie le pseudonyme soit certifié, quoi.
Ouais. Mais du coup, James, vu que t'as fait n'importe quoi, t'as pris quoi de ces.
Oh,
tout
mais
ça.
C'est bon, t'es pas ma mère. J'ai appris ce qu'il faut envoyer des dons au code certifié sur TikTok et qu'il faut envoyer des dons, je crois, c'était directement par le site officiel de l'association en question.
Ouais, et exactement. Aussi, il faut se méfier de la désinformation sur les médias et surtout sur les réseaux sociaux comme TikTok. En gros, vérifie les sources.
Ouais, mais t'inquiète, je referai pas ces erreurs. Ouais,
j'espère pour toi.
Par contre, sur ce, c'est la fin du programme. Bonne journée et masala tout le monde.
Au revoir, tchao.